hospitalier à temps plein avec un partage de votre temps à 50-50 entre le CHU de Nantes en tant que médecin de la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus et le CHD de La Roche-sur-Yon en tant que médecin intensiviste réanimateur et médecin de la coordination également. Et vous allez nous parler aujourd'hui encore du prélèvement d'organes et de tissus dans le cadre du Maastricht 3. Donc on a vu dans le dernier podcast que le prélèvement d'organes dans ce cadre comporte certaines particularités, à la fois dans l'identification des donneurs potentiels, dans l'abord des proches, mais également en termes d'organisation interne aux hôpitaux. On va donc essayer d'aller un peu plus loin pour savoir comment est-ce qu'on pourrait optimiser la procédure de Maastricht 3.
L'amélioration du recensement et du prélèvement des donneurs en mort encéphalique et Maastricht 3 a fait l'objet de nombreuses recommandations, notamment celles de l'OMS. La principale recommandation est que les équipes soignantes de réanimation doivent prendre en considération le prélèvement d'organes et tissus pour toute situation de fin de vie, dans le respect des souhaits du patient. Par exemple, dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral, s'il est habituel pour les soignants d'interroger les proches sur le niveau de handicap que le patient est prêt à accepter pour décider ou non d'une poursuite d'une ventilation mécanique invasive, la recherche d'une opposition non d'organes par les soignants dans le cadre d'un arrêt des traitements de réanimation est moins systématique pour les patients relevant d'une procédure Maastricht 3, alors que cette recherche fait partie, comme toute autre considération, du respect des souhaits du patient en fin de vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une politique volontariste au sein des établissements de santé concernant le prélèvement d'organes et tissus. Cette politique passe par une coopération étroite entre les coordinations hospitalières des prélèvements d'organes et tissus et les services concernés par la prise en charge des donneurs. Par exemple, au CHU de Nantes, la coordination participe de façon régulière aux transmissions de garde des réanimations, le rôle de la coordination n'étant pas d'interférer avec la prise en charge du patient, mais d'avoir connaissance d'un éventuel donneur. De plus, cette participation permet d'établir un lien de confiance entre les équipes en charge du donneur et la coordination, ce lien étant renforcé par la ou les nominations au sein des équipes de réanimation d'un ou des référents médicaux et paramédicaux. Un autre moyen utilisé est le déploiement du programme Crystal Action, mis à disposition des équipes hospitalières de l'Agence de la biomédecine. Ce programme est un outil d'analyse et de suivi de l'activité de recensement et de prélèvement d'organes à partir des décès des services concernés par la prise en charge des donneurs. Il permet de connaître au sein de chaque service la présence ou non de donneurs non identifiés et d'en rechercher là où les causes. À Nantes, pour chaque patient non identifié, un échange a lieu entre le médecin en charge du patient et la coordination. L'objet de cet échange bienveillant n'étant pas de juger la pratique du médecin, mais de comprendre le motif de non-identification et d'apporter d'éventuelles solutions. L'autre volant du programme Crystal Action est l'enquête connaissance, attitude et pratique réalisée dans les services. Cette enquête permet d'évaluer la culture du don au sein des services et les formations à éventuellement proposer. En dehors de la politique d'identification des donneurs Maastricht 3, l'optimisation de la procédure Maastricht 3 passe par une parfaite connaissance de la mise en place et de la gestion de la circulation régionale normothermique. En effet, selon les données de l'Agence de la biomédecine, 5 à 10% des arrêts de procédure Maastricht 3 sont secondaires à un échec de CERN, soit par défaut de canulation artério-veineuse, soit par dysfonction secondaire de l'ECMO artério-veineuse, soit par dysfonction du ballon d'occlusion aortique. Pour diminuer ce taux d'échec, plusieurs éléments doivent être pris en compte. En premier, l'expérience de l'opérateur, même si dans la littérature, il n'y a pas de nombre minimal de poses de canule et ou de ballon d'occlusion par opérateur pour se dire expérimenté. En deuxième, l'évaluation vasculaire du patient par un scanner descendant à la racine des membres inférieurs à la recherche d'athérome. En cas d'athérome important du carrefour aorto-iliaque et ou fémoral, les équipes espagnoles des prélèvements d'organes préconisent la pose sous scopie des canules. Enfin, concernant le ballon aortique, l'efficacité d'occlusion aortique peut être contrôlée par la mise en place, au préalable à l'arrêt des traitements de réanimation, d'une pression artérielle sanglante en radiale. Lors de la mise en route de la CRN ou en cours de CRN, tout décalage vers le haut de la pression artérielle sanglante traduit une mauvaise occlusion aortique nécessitant un contrôle du positionnement et du volume du ballon aortique pour prévenir tout risque de revascularisation cérébrale et ou de reprise d'une activité circulatoire. Enfin, concernant l'organisation générale du prélèvement Maastricht 3, mise en œuvre le week-end, quand en journée, elle relève de discussions de chaque établissement. Toutefois, il est important d'insister sur le fait que le prélèvement et la greffe relèvent d'une priorité nationale et que cette activité doit être reconnue et mise en avant dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'établissement et l'ARS. À l'échelle nationale, les principales difficultés organisationnelles rencontrées lors d'un prélèvement sont l'accessibilité du bloc opératoire, la disponibilité le week-end des équipes hospitalières. Par exemple, si la cannulation est réalisée par l'équipe de réanimation, il est plus simple pour elle de faire la procédure en semaine du fait d'un plus grand nombre de médecins présents. Un autre exemple, le prélèvement hépatique Maastricht 3 nécessite une analyse histologique de l'organe, celle-ci étant rarement disponible au week-end du fait de l'absence de médecins anatomopathologiques d'astreinte. Pour lever ces obstacles, les solutions proposées par l'Agence de la biomédecine est d'instaurer des équipes mobiles de CRN, de réaliser une lecture partagée des lames histologiques via la numérisation, peut-être à l'échelle nationale. La question est en cours.
D'accord, donc si je comprends bien, il y a en fait déjà plusieurs éléments que l'on peut mettre facilement en pratique dans nos services pour améliorer cette procédure et d'autres qui sont encore en cours d'évaluation. Mais par rapport à l'abord des proches plus spécifiquement, est-ce qu'il existe des particularités de l'abord du don pour de potentiels donneurs dans le cadre du Maastricht 3 par rapport aux donneurs en mort encéphalique?
En 2022, en France, le taux de refus du don d'organes pour les donneurs en mort encéphalique et pour les donneurs décédés en arrêt circulatoire de la catégorie 3 de Maastricht était respectivement de 33 et de 42 %, différence statistiquement significative et présente dans d'autres pays tels que le Royaume-Uni. Là où les causes d'une telle différence ont été très peu étudiées dans la littérature, mais plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première est que la demande fait suite à une décision d'un arrêt des traitements de réanimation, les proches ayant vécu un ascenseur émotionnel durant tout le séjour en réanimation, aboutissant à un épuisement. La deuxième est que la demande est faite dans un contexte d'un patient non encore décédé, avec une incertitude quant à la date et l'heure du décès. La troisième est liée à la demande même. Si la demande de don est bien la recherche d'une opposition au don d'organes, une adhésion des proches est recherchée pour la poursuite de la réanimation permettant la mise en œuvre de la procédure M3, cette adhésion aboutissant parfois à un refus des proches. Enfin, la dernière hypothèse est l'absence plus fréquente de la coordination aux entretiens d'abord du don auprès des proches. Dans les recommandations européennes et françaises concernant la prise en charge des Maastricht 3, pour limiter le risque de conflit d'intérêts, l'entretien avec les proches portant sur la décision d'arrêt des traitements du patient doit être réalisé par les membres de l'équipe de réanimation sans ceux de la coordination, est distinct de l'entretien de proposition du don. Cependant, il est fréquemment constaté que les équipes de réanimation ont tendance à évoquer le don ou même à réaliser la proposition du don auprès des proches dans la continuité de la discussion sur l'arrêt des traitements, en l'absence de la coordination, certaines équipes trouvant plus naturelle et logique une telle pratique. Dans une étude de cohorte en Angleterre, sur 2962 abords des proches pour les DAC M3, 28 % des abords ont été faits sans la coordination et 31 % des apports par la coordination seule. Dans ces deux cas, cela se traduisait par une augmentation significative du refus du don par les proches. L'arrêté français du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonne pratique relatives à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et tissus a acté que l'entretien est conduit au minimum par le médecin réanimateur en charge du patient, un membre de la coordination des prélèvements d'organes et tissus et, autant que possible, un membre de l'équipe paramédicale en charge du patient, quelles que soient les circonstances de la demande. Patient mort encéphalique, démarche anticipée, Maastricht 3. Cependant, la justification de cet entretien dit collaboratif n'est basée en grande majorité que sur des études de cohorte. La seule étude randomisée, contrôlée, chez les donneurs en mort encéphalique, comparant une demande de don réalisée par la coordination des prélèvements d'organes en présence de l'équipe soignante du patient, approche collaborative, à une demande par les seuls médecins et infirmiers de réanimation, n'a pas montré de différence significative entre les deux groupes quant au taux de consentement. Dans le cadre des donneurs M3, il est actuellement réalisé en France une étude, l'étude Prodon, avec le même déroulement et objectif que l'étude précédente et qui permettra peut-être de répondre à la question. L'approche collaborative permet-elle de diminuer le taux de refus? En conclusion, l'abord du don chez le donneur Maastricht 3 a lieu dans des circonstances différentes de celles de la mort encéphalique, qui peuvent, pour les soignants, rendre plus compliquée cette demande. Des études en cours, KERM3 et Prodon, permettront peut-être de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu au cours de cet abord, mais il paraît d'emblée nécessaire de former, notamment par la simulation, l'ensemble des équipes de réanimation et de coordination à une telle approche.
La sensibilisation des équipes soignantes sur cette différence d'approche semble effectivement être un point important. Ok, alors est-ce que maintenant vous pourriez nous dire quelques mots sur où on en est du Maastricht 3 en pédiatrie?
L'ouverture du programme de prélèvement d'ACM3 à des donneurs de moins de 18 ans s'inscrit dans les réflexions nationales et internationales sur ce sujet, avec des résultats qui sont jugés satisfaisants, avec ou sans recours à la CRN, dans les pays réalisant déjà ce type de prélèvement. L'objectif est d'accroître le nombre de greffons disponibles, mais aussi de pouvoir répondre favorablement aux éventuelles demandes des familles lorsque la question du don d'organes est posée après l'annonce de la décision d'arrêt des traitements de réanimation. Depuis 2018, de nombreux échanges et réunions ont eu lieu entre les représentants des sociétés de réanimation pédiatrique, GEFRUP et ADARPEF, et les membres du comité de pilotage national afin de communiquer tous les éléments nécessaires à la réflexion spécifiquement pédiatrique vis-à-vis des impératifs du protocole national. Les recommandations ont été rédigées par un groupe de travail constitué de réanimateurs et anesthésistes réanimateurs exercés en réanimation pédiatrique et en anesthésie pédiatrie, ainsi que des professionnels paramédicaux des coordinations hospitalières des prélèvements de centres donneurs pédiatriques. Les recommandations insistent sur les aspects organisationnels et éthiques et sur les aspects techniques. Concernant les aspects organisationnels et éthiques, le groupe de travail insiste sur le respect des recommandations du GEFRUP pour la prise en charge des arrêts de traitement en réanimation pédiatrique, avec une approche des parents qui ne devra se faire qu'après une démarche en amont de l'éligibilité des potentiels donneurs, le M3 n'étant proposé qu'aux parents qui ont accepté de façon explicite la décision d'arrêt des traitements. De plus, il ne pourra y avoir de transfert en intentionnalité de prélèvement avec un retour du patient en réanimation après le prélèvement et un suivi des familles. Enfin, seuls les enfants de plus de 5 ans et de plus de 20 kg pourront être éligibles. Concernant les aspects techniques, il n'existe pas de recommandations précises et consensuelles dans la littérature concernant les temps d'ischémie chaude autorisés et les critères définissant le début d'ischémie critique. Le groupe de travail a donc proposé de conserver les mêmes délais que ceux mis en place pour une procédure adulte, le même délai de no-touch de 5 minutes et la valeur de 45 mm de mercure pour définir la pression artérielle moyenne en dessous de laquelle débute l'ischémie chaude fonctionnelle. Le groupe de travail a également préconisé la signature du procès-verbal de décès par deux médecins. Ce point ne correspondant pas au cadre légal, puisque seul un médecin doit signer le procès-verbal de décès dans le cadre du programme M3. En pratique, seul un médecin signera le procès-verbal, mais dans la fiche de procédure spécifique donneur pédiatrique, il sera précisé que deux médecins doivent être présents pour la déclaration du décès sur la base de l'arrêt circulatoire. Enfin, une surveillance continue et spécifique des procédures pédiatriques avec des réunions de débriefing régulières entre les membres du groupe de travail d'ACM3 pédiatrique sera mise en place. Je vous remercie de votre écoute.
D'accord. Il y a donc une réflexion en cours autour de la mise en place et des aspects légaux du Maastricht 3 en pédiatrie, mais on peut aussi se référer sur l'expérience des pays qui le pratiquent déjà. En tout cas, merci, Dr Martin Lefebvre, pour les différents éclaircissements que vous avez pu nous apporter concernant l'optimisation de la procédure de Maastricht 3. On notera que le prélèvement d'organes et de tissus est une priorité nationale et qu'il est donc nécessaire d'avoir une politique volontariste au sein des établissements de santé, avec un lien qui est important à garder entre les équipes soignantes et les équipes de coordination du prélèvement d'organes et de tissus pour un meilleur recensement des potentiels donneurs et une meilleure adhésion des proches à la procédure. Il reste encore néanmoins plusieurs réflexions en cours, notamment quant à l'ouverture du programme de prélèvement sur donneurs décédés en arrêt après arrêt circulatoire de la catégorie 3 de Maastricht en pédiatrie. On verra ce que ça donne. Merci encore.